Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Belinda Bosuma Mamba pour les journaux.
Quatorze nouvelles matières pour la session ordinaire de septembre à l'Assemblée nationale. Elles ont été adoptées hier. Pendant ce temps, la CENI a présenté le kit technique du vote semi-électronique. Les membres de l'opposition ont quitté la salle aussitôt. Le forum sur la paix au Kasaï s'est clôturé hier à Kananga sans la participation du gouverneur Alex Kandé. Il est à Kinshasa depuis février dernier et les Kasaïens s'interrogent. Dans ce journal, les explications du vice-ministre de l'Intérieur à ce sujet. Nord Kivu, exploitation illicite des ressources naturelles du parc national des Virunga. Plusieurs réseaux criminels vivent de cela depuis des années, ce qui explique la formation des officiers de police judiciaire pour lutter contre ce fléau. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Palais du Peuple ici à Kinshasa avec l'adoption hier du calendrier de la session ordinaire de septembre 2017 par la conférence des présidents des commissions de l'Assemblée nationale. Ajouté à cela, près de 40 autres matières qui constituent des arriérés de la session de mars. Au cours de cette réunion, la CENI a fait une présentation du kit technique du vote semi-électronique, une présentation dénoncée par les présidents des commissions membres de l'opposition qui ont quitté la salle aussitôt. Michel Kifi.
En plus des 37 textes, les arriérés de la session ordinaire de mars dernier, le calendrier des activités du Parlement au cours de cette session retient 14 nouvelles matières, parmi lesquelles le projet de loi des finances 2018 et la proposition de loi organique sur les CENSA. À ceci, il faut ajouter les contrôles parlementaires et budgétaires, ainsi que l'audition des différents rapports, dont celui de la CENI. Signalons que tous les membres de l'opposition présents à la réunion d'adoption de ce calendrier ont quitté la salle avant la fin de la réunion. Eve Bazaïba nous en donne les raisons.
Nous avons suspendu notre participation à la conférence des présidents parce qu'il y a un point inscrit à l'ordre du jour qui nous a mis très mal à l'aise en tant qu'opposition. Il s'agit de la présentation par la CENI du kit du vote semi-électronique. Notre motivation est que c'est une matière qui n'est pas autorisée par la loi électorale. En deuxième lieu, c'est une matière hautement politique qui nécessite, avant d'entamer les questions techniques, qu'il y ait à l'avance une option levée en amont par les acteurs principaux des élections, notamment les partis politiques.
Malgré le départ des membres de l'opposition, la CENI a poursuivi la présentation du kit technique du vote semi-électronique au reste des présidents de commission.
Affaire passeport semi-biométrique, le député Toussaint Alonga demande à la Cour constitutionnelle d'annuler la mesure du ministère des Affaires étrangères rendant caduc ce document à partir du 16 octobre prochain. Dans sa requête introduite hier au greffe de cette haute cour du pays, cet élu du peuple estime que cette mesure est anticonstitutionnelle. Toussaint Alonga au micro de Michel Kifinda.
Nous avons réalisé des requêtes croisées devant la Cour constitutionnelle que nous avons déposée aujourd'hui et la semaine prochaine devant la Cour suprême dans une procédure de référé section administrative. Il s'agit de cette mesure qui intime l'ordre aux Congolais détenteurs de passeports semi-biométriques que d'ici la date du 16 octobre, ce passeport ne sera plus cour légale. Et dans ces conditions-là, nous avons estimé que ces mesures violent les dispositions de l'article 30 de la Constitution qui reconnaît la liberté de mouvement aux Congolais. Et selon le communiqué des ministres, à partir du 16, tout Congolais qui va franchir les frontières nationales et même à l'extérieur sera interdit s'il est porteur de ce passeport. Deuxièmement, l'article 34 qui reconnaît les droits de propriété à chaque Congolais. Et ce passeport ayant été acquis à titre onéré fait partie désormais du patrimoine de chaque détenteur. On ne peut pas lui priver les droits d'en jouir.
Et à propos de la catastrophe survenue dans la nuit de mardi à mercredi de cette semaine, dans 5 groupements de Massissi dans le Nord Kivu, les députés nationaux élus de Massissi déplorent cette catastrophe. En effet, une pluie diluvienne a occasionné le décès de plus de 15 personnes, une centaine d'autres portées disparues jusqu'à ces jours et des plus de 100 maisons détruites. Au regard de l'ampleur du désastre, ces députés invitent le gouvernement à apporter une aide substantielle à la population endeuillée et sinistrée. Le député Jules Mugiraneza au micro de Michel Kifinda.
Nous, députés, avons appris avec tristesse de dégâts causés par les inondations de pluie diluvienne dans la nuit du 19 au 20 septembre 2017 dans le groupement de Karuba, Kibabi, Matanda, Ufamandu Premier et de façon particulière dans la cité de Bihambwe en territoire de Masisi. Le bilan provisoire faisait état de 15 corps retrouvés et enterrés le même jour, une centaine de personnes disparues et plusieurs blessés graves, 104 maisons et plusieurs écoles détruites, laissant plusieurs centaines de personnes sans abri. À cet effet, nous présentons nos condoléances aux populations endeuillées et particulièrement aux membres des victimes, ceux dont les maisons et écoles ont été détruites. Au regard de l'ampleur du désastre, nous sollicitons l'implication du gouvernement de la République pour apporter une aide substantielle à cette population endeuillée et sinistrée.
L'actualité, c'est aussi la clôture hier à Kananga des travaux de la conférence sur la paix, la réconciliation et le développement de l'espace kassaïen. Lors de la cérémonie de clôture, les chefs coutumiers de la région du Kassaï ont signé un acte d'engagement pour la paix et le développement de cette partie du pays, théâtre de plusieurs mois de violences meurtrières liées au phénomène Kamuina-Nsapu. Blaise Ndongala pour le reportage.
Durant 3 jours, les participants au Forum de la paix ont discuté des raisons qui ont conduit les Kassaï à basculer dans la violence. Ils ont condamné les actes de vandalisme perpétrés pendant les conflits avant de poser les jalons d'une paix durable dans cette région. Pour éviter qu'un tel drame se reproduise dans l'avenir, les autorités coutumières ont fait quelques propositions lues par le chef coutumier Clément Kalamba.
Renforcer l'autorité de l'État sur l'ensemble de l'espace kassaïen, garantir les fonctionnements réguliers des administrations et promouvoir l'exercice des droits et libertés de tous les citoyens. Poursuivre et juger les criminels en vue de décourager tout recours à la vengeance privée.
De son côté, le Premier ministre Bruno Tshibala a salué l'organisation de cette conférence et a invité les participants à respecter les engagements pris.
Les recommandations que vient d'adopter la conférence comme solution susceptible de conduire au renforcement de la paix, la réconciliation, deviennent notre bréviaire que nous devons tous lire et observer scrupuleusement.
Plus de 800 personnes ont pris part à cette conférence, dont des membres du gouvernement, des élus locaux et nationaux, des chefs coutumiers et des acteurs de la société civile. De Kananga, Blaise Ndongala, Radio Okapi.
Par ailleurs, la non-participation du gouverneur du Kassaï central à la conférence sur la paix et le développement du Kassaï fait l'actualité à Kananga. Interrogé par Radio Kapi, le vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité rapporte qu'Alex Kandé a été invité à ce forum, même s'il ne s'est pas présenté. Basil Olongo explique au micro de Blaise Ndongala.
Toutes les filles et les fils du Kassaï étaient conviés à cette réconciliation. On a interdit à personne, mais n'oublions pas qu'il est de ce droit-là, compte tenu des agendas de chacun. Je pense ici dans la salle, on n'a pas vu tout le monde. Pour des raisons personnelles, on ne peut pas forcer quelqu'un à venir participer. Mais l'idéal serait que tout le monde s'y retrouve. Je ne veux pas retenir le gouverneur et c'est sur ce micro que j'avais lancé un appel qu'il vienne. Il peut avoir ses raisons à lui, mais je sais que pour la paix, même à distance, on peut toujours collaborer pour la paix.
Je vous rappelle que le gouverneur Alex Kandé séjourne à Kinshasa depuis février dernier. Il avait quitté sa province depuis quelques mois après le déclenchement des violences liées au phénomène Kamuina-Nsapu. Pendant ce temps, à Kamunia, dans la province du Kassaï, des élèves dans les écoles ont été détruites pendant les violences étudient sous les arbres. L'administrateur intérimaire de ce territoire qui donne l'information demande aux autorités d'aider ses enfants à étudier dans les meilleures conditions. Karine Ndamousso nous en dit plus.
Selon le responsable de la sous-division de l'éducation à Kamonia, plus de 50 écoles ont été détruites par les miliciens dans plusieurs groupements de ce territoire. Environ 18 700 élèves sont concernés. La plupart d'entre eux suivent les cours sous les arbres depuis le début de cette année scolaire. Les responsables d'école se plaignent de ces conditions. Manengu Uchidi, directeur de l'école primaire Bupole, affirme que dans ces conditions, les élèves ne sont pas concentrés. Il ajoute que pendant la pluie, les cours sont suspendus, les élèves renvoyés à la maison. Pour sa part, l'administrateur du territoire intérimaire demande à la population locale de construire des hangars pour permettre aux élèves de suivre suivre les cours dans de meilleures conditions. Le secteur de l'éducation a été l'un des plus touchés pendant les violences qui ont secoué les provinces du Kasaï. Plusieurs centaines d'écoles ont été détruites. Pour permettre aux élèves d'étudier à l'abri des intempéries, l'UNICEF avait proposé au gouvernement congolais de construire des hangars en attendant la réhabilitation des écoles endommagées au Kasaï. L'agence onusienne dit étudier avec le ministre de l'Enseignement la faisabilité de ce projet. Kananga, Karine Damousseau, Radio Kapi.
Et puis cette panique générale ce matin à Bandunduville, un groupe d'individus venus du quartier Air Congo, l'un des quartiers de la ville, a fait irruption dans plusieurs écoles pour disperser les élèves. Selon la société civile de Bandunduville, qui donne l'information, ce mouvement serait lié à la non-prise en compte des revendications des enseignants par le gouvernement. Ferdinand Karita, coordonnateur de la société civile de Bandunduville, a été joint cet avant-midi par Paul Matendo.
Tous les enfants qui étaient rendus à l'école, ils ont vu directement des groupes de personnes qui ont fait face pour les chasser des établissements scolaires. Il y a même la sœur préfète du lycée Matondo Siruamba qui a légèrement été tabassée. C'est-à-dire qu'on a chassé tous les enfants, la ville se retrouve sans école aujourd'hui.
D'où est venu ce groupe-là?
C'est un groupe de garçons de l'Air Congo. Et les policiers étaient là impuissants et aussi peut-être dans la complicité. Ils n'ont pas dû intervenir.
Et pour l'instant, quelle est la situation?
Maintenant, c'est la situation quand chaque parent a retiré ses enfants. Et c'est une ville sans école.
Quelle est la raison de ce mouvement-là, selon vous?
L'incontentement lié à la non-prise en compte des revendications des enseignants s'ils les ajoutent des 20 000 francs que le gouvernement avait promis. Rien n'est fait depuis qu'ils ont commencé à payer.
Côté enseignement supérieur, les professeurs de l'université de Kisangani durcissent le ton et entrent en grève illimitée à partir d'aujourd'hui. Ils l'ont décidé hier à l'issue de l'assemblée générale organisée à la faculté des sciences de l'UNIKIS. Ils réclament notamment le réajustement de leur salaire, la mécanisation des nouveaux docteurs ainsi que le remboursement du trop perçu du crédit véhicule. Le rapporteur de l'APUKIS, le professeur François-Daniel Biamélé, explique au micro de Dorcas Kankou.
En dépit de la bonne foi de la PUKIS, au respect de la procédure de la grève, constatons avec regret qu'aucune revendication n'a trouvé solution. En effet, nous relevons que le gouvernement a brillé par un silence coupable de ce qui précède, déclenchant une grève illimitée à dater de ce jour. En conséquence, nous suspendons notre participation à la poursuite de la deuxième session. Pas d'évaluation des examens restants, pas de transmission des cotes des examens déjà passés, pas de direction des travaux de fin de cycle, mémoire, thèse et pas de jury. La PUKIS invite tous les professeurs au respect strict de la présente décision.
Rappelons que cette grève intervient au terme de l'expiration du préavis de 15 jours donné au gouvernement lors de leur dernière assemblée générale. Direction le Congo central, le notable de la ville de Matadi et président provincial du parti politique UDECO, Union pour le développement du Congo, porte plainte contre toutes les autorités politico-administratives, agents et autres cadres du cadastre dans cette province pour spoliation du cimetière Ngadi 1 au quartier Kikanda à Matadi. Selon le président provincial du parti UDECO, la profanation des tombes est devenue inquiétante à Matadi et personne ne s'en occupe. Venant Wabelo explique au micro de Guy Roger Nyampala.
C'est un problème sérieux. Cette profanation a commencé depuis un peu quelques années. C'est moi qui ai enterré mon frère, mon cousin, communément appelé Tata Raphaël, et il est mort le 19 décembre 2002. Mais de 2002 jusqu'à maintenant, je crois qu'il n'y a que 15 ans. Et ça fait 6 ans que j'ai trouvé les maires sortants, ça n'a jamais été fait. Mais le 1er août ici, on arrive là-bas, c'était abominable. Une maison, donc à 1 mètre de la tour, déjà habitée. Je me suis adressé au procureur général qui s'occupe de la justice au Congo central. Donc j'ai porté plainte hier. Tout agent de cadastre, toute autorité politico-administrative, quand bien même ils disent que c'est pour les fins électoralistes qu'ils n'arrivent pas à démolir, moi aussi je serais peut-être candidat. Mais s'ils ne seraient pas élus pour cette minorité qui a construit des maisons là-bas, je m'en balance. Mais l'essentiel est qu'on puisse démolir toutes ces maisons. Et je soutiens, je dis bien, que toutes ces maisons-là tomberont. On doit les démolir, parce que c'est ce que dit la loi. Sinon alors, en tout cas, je vais m'en prendre aussi à ceux qui ont la justice dans leur chef.
Actualité, Afrique Monde.
Ouverture hier au Rwanda du procès des membres du Parti des Forces démocratiques unifiées FDU, accusés de tentative de création d'un groupe armé. Boniface Twagirimana, le vice-président des FDU, comparaissait hier pour la première fois devant la justice rwandaise. Le parti de Victoire Ingabire, emprisonné elle depuis 2011, reconnaît comme leurs membres 7 des 9 prévenus sur le banc des accusés. Au Togo, l'opposition togolaise a achevé la série des manifestations des rues cette semaine pour exiger le retour à la constitution originelle de 1992. Les manifestations se sont terminées avec un grand meeting à Lomé. Les marches de protestation se sont déroulées dans le calme. Un groupe de manifestants a été dispersé à coups de gaz lacrymogène en fin de journée, mais il n'y a eu aucun incident majeur. En revanche, l'opposition dénonce des violences dans le nord du pays. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre est au chevet des commerçants sinistrés d'Abobo après l'incendie qui avait ravagé ce marché. En effet, dans la nuit de dimanche 17 au lundi 18 septembre dernier, un impressionnant incendie a dévasté le grand marché de ce quartier populaire d'Abidjan. Le sinistre n'a pas fait des victimes, mais a provoqué d'importants dégâts matériels. Mardi, le chef du gouvernement ivoirien s'est rendu sur place. Il a rencontré des autorités locales et des commerçants. Terminant en Turquie, où 4 personnes sont mortes et 20 autres sont recherchées par les autorités turques ce vendredi après le naufrage d'un bateau qui transportait des migrants dans la mer Noire au large de la côte turque, selon l'agence pro-gouvernementale Anadolu. 38 migrants avaient été secourus en milieu de matinée, mais les recherches se poursuivent pour 15 à 20 autres personnes selon Anadolu.